pas transmettre parce qu'il est dans notre génération, personne n'était à même de recevoir cela. Et quand il a appris que j'étais auprès de ce maître, eh bien, nous avons parlé toute la nuit. Et voilà, et il m'a parlé de tous les maîtres qu'il a lui-même rencontrés. Il y a quelque chose qui s'est opéré à ce niveau-là par rapport à la transmission d'une génération à l'autre, si
est-ce,
je puis dire.
est-ce qu'il y a beaucoup d'autres maîtres soufis au Maroc actuellement ou c'est le seul connu?
Non, il y en a d'autres dans différentes tarikas. C'est vrai que Sidi Hamza joue un rôle, si je puis dire, de régénérateur, si je puis dire, revivificateur du soufisme. Mais c'est ce qui arrive assez régulièrement dans toute l'histoire du soufisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, à un moment ou à un autre, des chouyours, des maîtres qui vont redonner un souffle nouveau par la puissance de leur enseignement, par l'impact qu'ils ont sur la transformation de leurs disciples. Et donc, il y a là quelque chose qui va plus loin, si je peux dire, que l'héritage traditionnel. Et un renouvellement, y compris de la typologie, si je peux dire, même des disciples. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de gens qui n'appartiennent pas nécessairement à un milieu coutumier, si je peux dire, du soufisme. Et il y a donc une espèce d'ouverture de l'enseignement spirituel.
Lely Anwar, bonjour.
Bonjour. En effet, ce que vous dites nous montre que finalement le soufisme n'est pas juste... Alors vous allez peut-être nous parler un peu de ce que c'est que le soufisme traditionnellement. Mais en tout cas, ce que vous semblez dire, c'est que le soufisme n'est pas un objet de curiosité historique, quelque chose à mettre dans les musées ou qui soit rigidifié dans des textes anciens ou classiques, dans les grands classiques, mais bien un phénomène vivant. Et je crois que c'est le cas... au Maroc, mais aussi partout ailleurs, en Afrique noire, ou en Iran, en Afghanistan, enfin, c'est vrai que dans le nord de l'Inde, il y a énormément de mouvements soufis qui sont encore extrêmement vivants. Et donc, cette tradition vivante, elle est transmise, en fait, et vous le dites, par des maîtres, c'est-à-dire par des gens qui sont là et qui transmettent un enseignement. Et j'ai choisi, justement, un texte qui est un texte ancien, mais qui montre à quel point la personne de l'homme parfait, tel qu'il est défini dans le soufisme, est important pour transmettre cette parole de sagesse. C'est un texte de Ibn al-Farid, qui est, ou Ibn al-Farid, comme on dit, qui est en fait le premier grand poète soufi de langue arabe. Il a vécu entre le XIIe et le XIIIe siècle, il est né au Caire. Et voici donc ce qu'il dit à la première personne de la personne de l'homme parfait, celui qui transmet et à travers lequel le disciple accède à la sagesse. C'est en mon nom que ceux qui ont reçu l'esprit ont appelé les peuples vers ma voix, et c'est par ma parole qu'ils ont vaincu les incroyants. Et parce que mon essence est la première, ils se meuvent tous dans mon propre cercle et descendent de mes sources. Car bien que je sois pour l'apparence semblable à un fils d'Adam, pourtant, mon esprit témoigne que je suis en vérité son père. Personne ne vit qui ne tire de moi son existence, et toute volonté obéit à ma volonté. Et nul ne parle qui ne s'exprime avec mes mots, et nul ne voit sinon par la vue de mes yeux. Et celui qui prête l'oreille n'entend que par mon ouïe, celui qui saisit n'étreint que par ma puissance. Et dans la création tout entière, c'est moi qui parle, vois, entends, et dans le monde sensible, j'ai manifesté en toute apparence la réalité qui causait sa beauté. Et dans toute réalité non révélée par le phénomène, était mon image, dépouillée d'apparence corporelle. Et dans ce que l'esprit perçoit par la vision intérieure, j'étais aussi cachée à une pensée vite lasse par mon extrême subtilité. Et dans la douceur où l'âme se dilate, je suis tout entier un désir par qui se répand l'espoir dans tout l'univers. Et dans la terreur de l'angoisse, je suis tout entier un objet de crainte, et toute créature sur qui je laisse tomber mon regard me révère. Et dans l'union de ces attributs, je suis tout entier une approche. Viens donc, viens tout près de mes attributs merveilleux. En ce lieu où il n'y a plus de « en », je n'ai pas cessé de goûter en moi-même la gloire de me contempler moi-même et de ressentir la perfection de ma nature.
سمعت صوتا هاتفا السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوت هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب له كاس المنى هب له كاس المنى قبل أن
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie de Fawzi Skali. Nous parlons du soufisme sur la musique de Oum Kalsoum. Alors Fawzi Skali, on a dit un petit mot de votre propre parcours, de votre maître. Ce serait bien de, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien le soufisme, et ils sont je pense assez nombreux, de nous expliquer un petit peu d'où vient ce courant historiquement.
Bien, il est né au 2e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire à peu près au 8e siècle, donc dans la région de la Mésopotamie, vers l'Irak, vers la Syrie, après un peu plus tard vers le Khorasan du côté de la Perse. Et le terme lui-même est un terme qui renvoie à la laine que les soufis étaient supposés avoir revêtue pour se distinguer en quelque sorte des autres types d'enseignement, pour aussi peut-être montrer que ce qui les intéresse, la laine étant un vêtement assez rugueux, qu'ils renonçaient en quelque sorte à l'apparence pour s'intéresser à l'intériorité. Mais l'étymologie du terme renvoie à plusieurs sens un petit peu qui sont très proches de la même étymologie que la laine. Elle renvoie à Sophia, par exemple, qui est la sagesse grecque. Et on sait qu'à l'époque, la philosophie grecque et les concepts grecs étaient très présents dans la civilisation musulmane. Et il renvoie aussi à Safa, qui signifie clarté. Et il renvoie aussi à Al-Sofa, les gens du banc, qui étaient ces personnes qui se tenaient dans un vestibule de la mosquée du prophète et qui avaient une activité, si je puis dire, de contemplation, de méditation et de prière et d'études aussi, d'une façon générale, encore plus poussée, disons, que l'ensemble de la communauté. Et donc, il y a tout un ensemble de significations un petit peu connivantes pour exprimer un peu cette démarche qui consiste à mettre de la clarté à l'intérieur de soi. C'est-à-dire finalement un processus d'illumination, si je puis dire, et de connaissance de soi. Et cela se fait par une sorte de prise de conscience tout à fait précise et intéressante de toute la façon dont le moi, si je peux dire, le nefs, l'ego humain fonctionne. Et comment est-ce qu'il constitue tout un ensemble de voiles, il produit tout un ensemble d'illusions, tout un ensemble d'écrans qui nous séparent de notre réalité la plus intime et la plus profonde. Donc c'est une sorte de déconstruction en quelque sorte de ce conditionnement de l'ego qui nous permet de nous rapprocher de notre source intérieure.
Ça ressemble beaucoup à ce que vous dites à la mystique indienne, qu'elle soit hindoue ou bouddhiste. Est-ce qu'il y a eu des influences de l'Inde sur le soufisme?
Moi, je pense que c'est beaucoup plus parce que l'on parle de la même réalité. Il y a certes eu sans doute des influences d'autant plus réceptives qu'elles ont des échos. Par exemple, lorsqu'on est dans le soufisme, qu'on entend parler d'une expérience de l'Inde, de la méditation, de la connaissance du soi, eh bien, bien sûr, cela fait écho par rapport à la propre expérience que l'on peut avoir. Et donc, si je peux dire, l'influence est d'autant plus réelle qu'elle correspond à une réalité. Mais ça va au-delà de l'influence extérieure. Ce dont il s'agit, ce sont des proximités d'expérience. C'est des convergences pour aller vers la même expérience qui est l'expérience de la réalisation ultime, de la réalisation spirituelle. Certes, avec peut-être des langages différents qui, eux, s'habillent de leur culture. Et je pense que dans le soufisme, on a habillé toute cette expérience un peu de cette culture de l'Arabie anté-islamique où il y avait cet amour platonique qui était sublimé, c'est l'amour de Qais pour Layla, de Majnoun, le fou de Layla, et qui parle en quelque sorte des expériences de la spiritualité en prenant des analogies sur